le développement ultérieur du récit. Expliqué par Christopher Tolkien. Depuis le passage où Aldarion lit la lettre d'Erendis exprimant son refus de revenir vivre à Arménélos, l'histoire ne s'appuie plus guère que sur des notes et indications dont on peut tirer tout juste quelques brefs aperçus et des bribes de récits. Et ces fragments ne forment pas en eux-mêmes un récit cohérent, car ils ont été écrits à des périodes différentes et souvent se contredisent entre eux. Il semble que lorsqu'Aldarion devint roi de Númenor en l'année 883, il décida de retourner sans attendre en Terre du Milieu et appareilla pour le Mithlond la même année ou l'année suivante. Il est raconté que sur la proue de l'Irilondé, il ne posa pas le rameau d'Oilolaire, mais une figure de proue, cadeau de Círdan, qui représentait un aigle au bec d'or et aux yeux de joyaux. Voici le fragment. L'aigle se tenait là, perché grâce à l'art du sculpteur, comme sur le point de s'envoler, immanquablement, jusqu'à un lointain lieu sur lequel il posait les yeux. « Ce signe, dit-il, nous conduira vers notre but, et quant à notre retour, que les Valar s'en chargent, si nos actes leur agréent. » Il est dit aussi qu'il ne subsiste aucun document concernant les expéditions ultérieures d'Aldarion, mais qu'on sait cependant qu'il voyagea beaucoup, tant sur terre que sur mer, et remonta le cours du Guathlo jusqu'à Tharbad, et là rencontra Galadriel. Cette rencontre n'est mentionnée nulle part ailleurs, mais à l'époque, Galadriel et Celeborn vivaient en Eregion, à courte distance de Tharbad. Mais tous les grands travaux d'Aldarion furent balayés, et les chantiers qu'il entreprit une fois encore à Vinyalondé ne furent jamais achevés, et la mer les rongea. Néanmoins, il posa les fondations de l'œuvre que, bien des années plus tard, devait mener à terme Tar Minastir lors de la première guerre contre Sauron. Et sans ces travaux, les flottes de Númenor n'auraient pu amener leurs forces en temps et en lieu voulu, comme Aldarion l'avait lui-même prévu. Déjà l'hostilité gagnait de toutes parts, et des montagnes descendaient de sombres hommes qui envahissaient les Nedwef. Mais au temps d'Aldarion, les Númenoréens n'étaient pas encore en quête de terres nouvelles, et ces aventureux demeuraient un groupe restreint qui suscitait l'admiration, mais fort peu d'émulation. Il n'existe aucune allusion au développement d'une alliance avec Gil-galad ou de l'envoi des secours sollicité dans sa lettre à Tar-Meneldur. On lit même que « Aldarion vint trop tard ou trop tôt. Trop tard car le pouvoir qui haïssait Númenor s'était déjà éveillé. Trop tôt car le temps n'était pas venu pour que Númenor fasse montre de sa puissance ou intervienne dans la bataille pour le monde. » Il y eut grande agitation à Númenor lorsque Tar-Aldarion résolut de retourner en Terre du Milieu en l'an 883 ou 884, car jusqu'alors, aucun roi n'avait quitté l'île et le conseil ne disposait pas de précédent. Il semble que la régence fût offerte à Meneldur, qui se récusa, et que Halatan de Yarastorni devint régent, nommé soit par le conseil, soit par Tar-Aldarion lui-même. Quant à l'histoire d'Ancalimé, en ces années où elle grandit en puberté, elle demeure assez floue. Le doute est moindre en ce qui concerne son caractère quelque peu ambigu et l'influence que sa mère exerçait sur elle. Moins guindée qu'Erendis, elle avait un goût inné pour le faste, les bijoux, la musique, les éloges et les égards envers sa personne. Mais elle les aimait à sa convenance, et non pas constamment, et elle faisait de sa mère et de la blanche maison des Mériers une excuse pour s'échapper. Elle approuvait, semble-t-il, à la fois l'attitude d'Erendis envers Aldarion lors de son retour tardif, et la colère d'Aldarion, son absence de remords et son rejet conséquent d'Erendis qu'il avait à jamais chassé de son cœur et de ses pensées. Elle répugnait viscéralement à un mariage imposé et, dans les liens du mariage, à toute entrave à sa volonté. Sa mère n'avait cessé de lui dire du mal des hommes et, au demeurant, il nous reste un remarquable exemple des enseignements d'Erendis en la matière. « À Númenor, dit Erendis, les hommes sont des semi-elfes, et les hommes de haut rang tout particulièrement. Ils ne sont en fait ni l'un ni l'autre. La longue existence qui leur a été concédée les berce d'illusions, et ils flânent de par le monde, enfants en esprit, jusqu'à ce que l'âge les rattrape. Et nombre d'entre eux se contentent d'abandonner leur jeu en extérieur pour se livrer dans leur maison au jeu d'intérieur. De leur jeu, ils font toute une affaire. Et les affaires importantes, ils traitent en jeu. Ils se veulent tout à la fois artisans et érudits, et des héros en même temps. Et les femmes sont pour eux comme le feu dans l'âtre, quelque chose qu'il incombe à d'autres d'entretenir jusqu'au soir, jusqu'à ce qu'ils se lassent de leur jeu. Toutes choses ont été faites pour leur commodité. Les collines pour en tirer la pierre des carrières, la rivière pour fournir l'eau ou tourner les roues, les arbres pour les planches, les femmes pour les désirs de leur corps, ou, lorsqu'elles sont belles, pour orner leur table et leur foyer. Et les enfants pour taquiner lorsqu'ils n'ont rien d'autre à faire. Mais ils joueraient tout aussi bien avec les chiots de leur limier. Envers tous, ils sont courtois et bons, joyeux comme des alouettes au matin, à condition que le soleil brille, car ils ne s'échauffent jamais s'il y a moyen de l'éviter. Les hommes doivent être gais, estiment-ils, généreux comme le sont les nantis, prodiguant ce dont ils n'ont nul besoin. Ils manifestent de la colère seulement lorsqu'ils prennent conscience, soudainement, qu'il existe de par le monde des volontés contraires à la leur. Et pour peu qu'on ose leur résister, ils seront aussi implacables que les vents des mers. C'est ainsi, Ankalimé, et nous n'y pouvons rien, car ce sont les hommes qui ont façonné Nouménor. Des hommes, ces héros d'autrefois dont on chante les exploits, et de leurs femmes, on ne parle guère, sinon pour les montrer pleurant leurs hommes tués au combat. Nouménor devait être un lieu de répit après la guerre, mais s'ils se lassent du repos et des jeux de la paix, bientôt ils reviendront à leurs grands jeux, les massacres et les guerres. C'est ainsi, et nous demeurons parmi eux. Mais nul besoin d'y consentir. Si nous aussi aimons Nouménor, alors jouissons-en avant qu'il ne ruine le pays. Nous aussi sommes filles des plus grands, et nous avons une volonté et un courage qui nous sont propres. C'est pourquoi garde-toi de plier, Ankalimé. Que tu plies ne serait-ce qu'un tout petit peu, et ils te feront plier plus et plus encore, jusqu'à ce que tu sois toute courbée. Enracine-toi dans la roche, et affronte les vents, même s'ils te dépouillent de toutes tes feuilles. De plus, et sans doute de manière plus déterminante, Erendis avait accoutumé Ankalimé à la société des femmes, dans la fraîche, paisible, douce vie de l'émérillé, sans brusque rupture ou alerte. Les garçons, comme Ibal, étaient bruyants. Les hommes arrivaient à cheval, sonnant du cor à des heures étonnantes, et on les nourrissait à grand bruit. Ils engendraient des enfants, et dès qu'ils se montraient pénibles, s'en débarrassaient aux mains des femmes. Et même si, à Nouménor, les douleurs et les dangers de l'enfantement étaient moindres, l'île n'était nullement un paradis sur terre. Et les peines de l'accouchement, comme de tout effort de création, n'y étaient nullement épargnées. Ankalimé, comme son père, poursuivait résolument ses volontés, et elle avait hérité de l'obstination d'Aldarion, choisissant la voie opposée à toutes celles qui lui étaient conseillées. Elle avait aussi quelque chose de la froideur de sa mère et l'intuition d'un affront personnel, et tout au fond de son cœur subsistait, presque effacé, mais non pas complètement, le souvenir de la fermeté avec laquelle Aldarion, pressé de partir, avait débouclé l'étreinte de ses mains et l'avait posée à terre. Elle aimait tendrement les coteaux vallonnés de sa région. Et jamais, disait-elle, au cours de sa vie, elle ne put dormir en paix loin du bruit des troupeaux. Mais elle ne refusa pas son héritage, et elle se résolut, lorsque son jour viendrait, d'être une puissante reine souveraine. Et en tant que telle, de vivre selon son bon plaisir où et comment cela lui chanterait. Il semble que durant les quelques 18 premières années de son règne, Aldarion se soit fréquemment absenté de Nouménor, et que Ankalimé, en ce temps-là, ait partagé son temps entre l'Émérillé et Arménélos, car la reine Almariane s'était prise d'une grande tendresse pour elle et lui cédait en tout, comme elle avait cédé à Aldarion dans sa jeunesse. À Arménélos, tout le monde la traitait avec déférence, et Aldarion le premier. Et bien qu'au début elle se sentît à l'étroit, car les vastes horizons de son pays lui manquaient, avec le temps, son embarras s'apaisa, et elle s'aperçut que les hommes étaient éblouis par sa beauté, alors en pleine fleur. Et avec l'âge, elle se fit toujours plus entêtée, et elle s'agaça de la compagnie d'Erendis, qui se conduisait en veuve et ne voulait pas être reine. Mais elle n'en revenait pas moins faire des séjours en Émérillé, à la fois pour échapper à Arménélos et par désir de contrarier Aldarion. Elle possédait intelligence et ruse, et dans cette lutte entre sa mère et son père, dont elle était devenue l'enjeu, elle concevait promesses d'amusement. Or, en l'année 892, lorsqu'Ancalimé eut 19 ans, elle fut proclamée héritière du roi, à un âge beaucoup plus précoce que ce n'avait été le cas précédemment. À cette époque, Taraldarion fit modifier la loi de succession qui avait cours à Nouménor. Il est bien précisé que Taraldarion le fit pour des raisons d'ordre privé plutôt que politique, ému par sa tenace résolution de triompher d'Erendis. Il est aussi question du changement de la loi dans l'appendice A du Seigneur des Anneaux. Le sixième roi, Taraldarion, ne produisit qu'un enfant, une fille. Elle devint la première reine, car la maison royale décréta alors une loi voulant que l'aîné des enfants du roi, homme ou femme, reçût le sceptre. Mais ailleurs, la nouvelle loi est formulée différemment. Le récit le plus complet et le plus clair établit tout d'abord que la vieille loi, comme on l'appela par la suite, n'était pas en fait une loi de Nouménor, mais une coutume héritée de jadis et qui n'avait jamais encore eu l'occasion d'être remise en question. Et selon cette coutume, le fils aîné du souverain héritait du sceptre. On admettait que, faute d'un fils, c'était le plus proche parent mâle, lui-même descendant de la lignée masculine d'Elros Tar Minyatur, qui serait l'héritier. De sorte que si Tar Meneldur n'avait pas eu de fils, le titre d'héritier ne serait pas passé à son neveu Valandil, fils de sa sœur Silmarienne, mais à son cousin Malantur, petit-fils d'Arendur, le plus jeune frère de Tar Elendil. Mais selon les dispositions de la nouvelle loi, en l'absence d'un fils, c'était la fille aînée du souverain qui héritait du sceptre. Disposition contraire, bien entendu, à ce qui est dit dans le Seigneur des Anneaux. Sur recommandation du Conseil, on ajouta qu'elle était libre de refuser. Et dans un tel cas, selon la nouvelle loi, l'héritier du souverain était son plus proche parent mâle de la lignée masculine ou féminine indifféremment. Ainsi, si Ancalimé avait renoncé au sceptre, l'héritier de Tar Aldarion aurait été Soronto, le fils de sa sœur Eilinel. Et si Ancalimé avait cédé le sceptre ou était morte sans enfant, Soronto aurait également été appelé à devenir son héritier. Sur proposition du Conseil, il fut également décrété qu'une femme, lorsqu'elle avait qualité d'héritière, devait renoncer au sceptre si elle ne se mariait pas en temps voulu. Et à cette disposition, Tar Aldarion adjoignit l'interdiction pour l'héritier du roi de se marier hors de la lignée d'Elros, et quiconque transgressait l'interdiction perdait toute prétention au titre d'héritier. Il est dit que ces articles lui avaient été directement dictés par son désastreux mariage avec Erendis et par les réflexions qu'il en tira. Car Erendis n'était pas de la lignée d'Elros et son espérance de vie était moindre. Et il considérait que tout le mal était venu de là. Si les articles de la nouvelle loi furent consignés en si grand détail, c'est très certainement parce qu'ils devaient influer directement sur l'histoire ultérieure de ses règnes. Mais malheureusement, il nous reste bien peu là-dessus. À une date non précisée, Tar Aldarion abrogea la loi selon laquelle la reine régnante devait ou bien se marier ou bien renoncer au trône. Cela très probablement en raison de la répugnance d'Ancalimé à embrasser l'un ou l'autre parti. Mais le mariage de l'héritier à un autre membre de la lignée d'Elros devait demeurer inscrit dans la coutume à jamais. Toujours est-il que les prétendants à la main d'Ancalimé se présentèrent bientôt en émérier. Et cela non seulement en raison de sa nouvelle disposition, mais attiré également par la renommée de sa beauté, de son caractère détaché et dédaigneux, et des singularités de son éducation qui avaient parcouru tout le pays. À cette époque, les gens commencèrent à parler d'elle sous le nom d'Emelwen Aranel, la princesse bergère. Pour fuir les importants, Ancalimé, avec l'aide de la vieille Zamine, s'en alla vivre cachée dans une ferme aux confins des terres de Halatan de Yarastorni, et là, elle vécut un temps en bergère. Les récits, guère plus que des notations hâtives, varient quant à la réaction de ses parents face à cette situation. Selon une version, Erendis elle-même savait où se trouvait Ancalimé et approuvait les raisons de sa fuite. Cependant, Caldarion empêchait le conseil de la faire rechercher, car il était dans ses vues que sa fille fasse preuve d'une telle indépendance. Toutefois, selon une autre version, la fuite d'un calumet troubla fort Erendis et provoqua le courroux du roi. Mais à cette époque, Erendis tenta une réconciliation avec son époux, au moins en ce qui concernait Ancalimée. Mais Aldarion resta de glace, déclarant que le roi n'avait pas d'épouse, mais qu'il avait une fille et héritière, et qu'il ne croyait nullement qu'Erendis ignorât le lieu de sa retraite. Une chose est certaine, c'est qu'Ancalimée vint à fréquenter un berger qui gardait ses troupeaux dans la même région, et cet homme lui dit se nommer Mamandil. Peu accoutumé à une telle compagnie, Ancalimée prit goût à ses chants, et il était habile en cet art. Et il lui chanta des chansons remontant à des temps lointains, quand les Edain menaient paître leurs troupeaux en Eriador, fort longtemps auparavant, bien avant leur rencontre avec les Eldar. Et ils se retrouvèrent, eux deux, au pâturage, maintes et maintes fois, et il modifia les ballades des amoureux de jadis, introduisant les noms d'Emerwen et de Mamandil. Et Ancalimée feignit de ne pas saisir le changement dans les paroles. Mais vint le moment où il lui déclara ouvertement son amour, et elle eut un mouvement de recul et le refusa, lui disant que son destin s'interposait entre elle et lui, car elle était l'héritière du roi. Mais Mamandil n'en fut nullement décontenancé, et il éclata de rire et lui dit que son vrai nom était Halakar, fils de Halatan de Yarastorni, issu de la lignée d'Elrostar Miniatur. « Et comment un soupirant pouvait-il t'approcher autrement ? » dit-il. Et Ancalimée fut prise de colère, car il s'était joué d'elle, ayant toujours su qui elle était. Mais il répondit « Cela n'est vrai qu'en partie. J'ai cherché en effet à rencontrer la dame dont la conduite était si singulière que j'étais curieux de la voir de plus près. Mais je me pris alors d'amour pour Emerwen, et peu me chaud à présent qui elle est. Ne pense point que je recherche ton rang, car je préférerais de beaucoup que tu ne sois qu'Emerwen. Et de cela seul, je tire joie. J'appartiens moi aussi à la lignée d'Elros, faute de quoi je pense que nous ne pourrions nous marier. »
« Nous le pourrions, » dit Ancalimée, « si je désirais une telle situation. Je pourrais abandonner mon titre royal et être libre. Mais si je faisais cela, libre je serais d'épouser qui je veux, et ce serait Uner,
c'est-à-dire nul homme,
lui que je préfère à tout autre. »
C'est pourtant Halakar qu'Ancalimée devait épouser en fin de compte. Selon une version, il apparaît que l'obstination de Halakar à lui faire la cour malgré ses refus et l'insistance du conseil à ce qu'elle prenne un époux pour assurer la paix du royaume aurait finalement amené leur mariage quelques années après leur première rencontre parmi les troupeaux de l'Émerier. Mais ailleurs, il est dit qu'elle demeura non mariée si longtemps que son cousin Soronto, invoquant les dispositions de la nouvelle loi, exigea qu'elle renonçât au titre d'héritière, et c'est alors qu'elle se décida à épouser Halakar afin de tromper les ambitions de Soronto. Enfin, d'une autre note brève, on comprend qu'elle épousa Halakar après qu'Aldarion eut abrogé cet article de loi afin de mettre fin aux visées de Soronto qui espérait être roi si Ancalimée mourait sans enfant. Quoi qu'il en soit, l'histoire dit clairement qu'Ancalimée ne recherchait pas l'amour ni ne désirait un fils. Et elle dit « Dois-je devenir comme la reine Almarian et lui passer tous ses caprices ?» Sa vie avec Halakar fut très malheureuse, car elle lui disputait leur fils Anarion, et la lutte entre eux fut dès lors continuelle. Elle tenta de le soumettre en s'affirmant propriétaire de ses terres et en lui interdisant d'y séjourner, car, disait-elle, elle ne voulait pas d'un régisseur de ferme pour époux. De cette époque date le dernier récit qui illustre ces tristes événements. Ancalimée refusait d'accorder la permission de se marier aux femmes de sa suite, et bien que de crainte de lui déplaire, la plupart d'entre elles aient obéi, elles étaient originaires de la campagne alentour et avaient des amoureux qu'elles souhaitaient fort épouser. Et Halakar prit secrètement les dispositions pour célébrer ses mariages. Et il déclara qu'il donnerait un ultime banquet dans sa propre maison avant de la quitter. Et il invita Ancalimée à ce banquet, disant que c'était la demeure de ses pères et qu'il convenait par courtoisie d'y faire ses adieux. Ancalimée vint accompagnée de toute sa suite de femmes, car elle refusait d'être servie par des hommes. Elle trouva la maison tout illuminée et décorée comme pour une grande fête, et les hommes de la maisonnée couronnés de fleurs comme s'ils allaient se marier. Et chacun portait à la main une autre couronne destinée à sa promise.
Viens, dit Alakar. Les préparatifs des noces sont achevés et les chambres nuptiales apprêtées. Mais comme il n'est pas pensable que la dame Ankalimé, l'héritière du roi, passe la nuit avec un régisseur de ferme, elle devra, hélas, dormir seule ce soir. Et Ankalimé fut contrainte de demeurer là, car cette demeure était trop loin pour s'en retourner, et elle ne voulait pas s'en aller seule à cheval. Hommes et femmes ne pouvaient dissimuler leur sourire, et Ankalimé se refusa de participer au banquet, et allongée dans son lit, elle prêta l'oreille aux rires qui fusaient au loin, les croyant dirigés contre elle. Le jour suivant, elle partit à cheval, animée d'une rage froide, et Alakar envoya 3 hommes pour lui faire escorte. Ainsi tira-t-il sa revanche, car jamais plus elle ne revint en Emerié, où les moutons eux-mêmes paraissaient la bafouer. Mais elle ne cessa par la suite de poursuivre Alakar de sa haine. De ce que fut la vie de Tar Aldarion dans ces dernières années, on ne peut rien en dire, sinon qu'il semble avoir poursuivi ses expéditions en terre du milieu, laissant plus d'une fois la régence à Ankalimé. Il aurait entrepris son dernier voyage vers la fin du premier millénaire du deuxième âge. Et en l'an 1075, Ankalimé devint la première reine régnante de Númenor. Il est dit qu'après la mort de Tar Aldarion, en 1098, Tar Ankalimé abandonna toutes les entreprises de son père et n'envoya aucun secours à Gil-galad ou Lindon. Son fils Anarion, par la suite 8e souverain de Númenor, eut d'abord 2 filles. Elles n'éprouvaient qu'aversion et crainte envers la reine et refusèrent la dignité d'héritière et jamais ne se marièrent, car la reine, par vengeance, ne le leur permit point. Sourion, le fils d'Anarion, naquit le dernier et fut le 9e souverain de Númenor. D'Erendis, il est dit que la vieillesse venue, abandonnée d'Ankalimé et vivant dans une amère solitude, elle vit son désir pour Aldarion se raviver. Et apprenant qu'il avait quitté Númenor pour ce qui devait être son dernier voyage, mais que l'on prévoyait son retour prochain, elle quitta enfin les Mériers et se rendit seule et inconnue de tous au port de Roména. Et c'est là, semble-t-il, qu'elle rencontra son destin. Mais seuls les mots « Erendis périt dans les flots en l'année 985 » subsistent pour nous suggérer ce qu'il advint d'elle. Chronologie. Anardil, Aldarion, naquit en l'année 700 du deuxième âge, et son premier voyage en terre du milieu eut lieu en 725-727. Meneldur, son père, devint roi de Númenor en 740. La guilde des aventureux fut fondée en 750 et Aldarion fut proclamé héritier du roi en 800. Erendis naquit en 771. Le voyage d'Aldarion, qui dura 7 ans, engloba les années 806-813. Le premier voyage du Palaran se fit en 816-820. Le voyage de la flottille de 7 navires, entrepris au mépris des volontés du roi Tar Meneldur, eut lieu en 824-829. Et le voyage d'une durée de 14 ans qui s'ensuivit immédiatement, en 829-843. Aldarion et Erendis se fiancèrent en 858. L'expédition entreprise par Aldarion après ses fiançailles se place en 863-869. Et le mariage fut célébré en 870. Ankalimé naquit au printemps de l'année 873. Lirilonde appareilla au printemps de l'an 877, et le retour d'Aldarion, suivi de sa rupture avec Erendis, se place en 882. Il reçut le sceptre de Númenor en 883.